Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalungu, des programmes qui sont diffusés via notre réseau de 52 radios et 7 télévisions partenaires dans tout le Niger. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du forum de Studio Kalungu qui a pour thème « Quels sont les défis qui se posent au métier de journaliste dans le contexte de crise au Niger ?» Dans un reportage de Studio Kalungu, il ressort que le coup d'État intervenu au Niger le 26 juillet a créé un environnement de travail difficile pour les journalistes sur le terrain. Cependant, malgré les défis et les dangers, ces professionnels de l'information continuent d'effectuer leur travail. Néanmoins, plusieurs médias de Niamey se sont réorganisés tant au niveau des programmes, mais aussi au niveau de la rédaction pour poursuivre leur mission, celle d'informer la population même en temps de crise. Mais comment le journaliste doit-il exercer sa fonction dans un contexte de crise? Quels sont les défis et contraintes qui se posent aux journalistes et comment les surpasser? À ces questions et à bien d'autres, nous tenterons de trouver réponse au cours des 45 minutes à venir. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Bra Souleymane. Il est membre du conseil d'administration de la Maison de la Presse ONG. Bonsoir.
Bonsoir, Nefsa.
Seydou Djibril, il est journaliste. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Moudi Moussa, journaliste et rédacteur en chef de la radio et télévision Amfani. Bonsoir.
Bonsoir.
Je suis Nafis Adam Sirfou à la modération. Merci, chers invités, d'être venus quelques jours après la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Plusieurs médias de Niamey ont apporté quelques changements au niveau de leur programme pour s'adapter à l'évolution des événements. C'est le constat fait par une équipe de Studio Kalungu, suivant quelques rédacteurs en chef des groupes de presse privés de Niamey.
Au niveau de Canal 3 Niger, depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, justement, nous nous sommes réorganisés au niveau du programme et au niveau de la rédaction. Nous avons installé des équipes qui sont en permanence en alerte par rapport à l'évolution de la situation sur le terrain de reportage, mais également pour suivre le fil des différents communiqués du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP. Le programme a été réadapté.
Au niveau d'alternative, rien n'a changé parce que, en fait, c'est une radio citoyenne, c'est une radio qui a proximité avec la population. Donc, notre programme reste tel. Nous prenons l'information nécessaire au vu du contexte et nous diffusons ce qu'on est censé diffuser.
Bon Ferré a une grande partie de son programme qui est consacré à la sensibilisation à travers des émissions religieuses. On a essayé d'attirer l'attention notamment des animateurs. Le message qu'on a partagé avec ces éléments, c'est vraiment celui d'appeler les populations au calme, de prêcher sur des thèmes en lien avec la cohésion sociale, en lien avec l'unité nationale. Pour le reste du programme, vraiment on suit l'évolution de l'actualité.
Vous venez donc d'entendre quelques rédacteurs en chef des presses privées de Niamey qui se sont réadaptés après le coup d'État intervenu le 26 juillet dernier. Alors je commence par vous, Moudi Moussa, vous êtes journaliste et rédacteur en chef de la radio et télévision Amfani. Après écoute, est-ce que vous confirmez les propos entendus? Quelle est la réalité aujourd'hui de votre côté?
Voilà, merci Nafissa. Effectivement, comme vous l'avez dit dans votre introduction, le coup d'État intervenu le 26 juillet passé a profondément changé, en tout cas, le cours des activités au niveau des médias, pas seulement privés, sinon même au niveau du public.
Oui.
Vous constaterez qu'effectivement, il y a eu un grand changement. Et ce changement, malheureusement, on va dire malheureusement, en tout cas, se remarque à tous les niveaux. Il n'épargne pratiquement aucun média. Je suis, comme vous l'avez rappelé, rédacteur en chef dans un des organes privés ici de la place. Et je vous avoue que nous vivons, en tout cas, comme on dit, de plein fouet, c'est cette situation. Mais sinon, je vous dis, on est dans un contexte où l'actualité est totalement en panne. Comme l'a rappelé un des confrères que je venais d'écouter, il n'y a rien que le conseil et le communiqué, n'est-ce pas, du CNSP, c'est ça qui fait la une. À chaque fois, on s'accroche. Nous-mêmes, maintenant, la principale source d'information est devenue pratiquement soit la RTN, la télévision nationale, la radio, parce que c'est par ce canal que les nouvelles autorités communiquent, généralement. Et donc, un peu les réseaux sociaux. Et vous savez qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas se fier sur ce qu'on voit défiler sur les réseaux sociaux.
Il faut suivre l'évolution.
Et du coup, ça pose un problème parce que traditionnellement, vous connaissez nos médias, comment ça fonctionne. C'est des médias, certes, généralistes, mais on est trop souvent dans les activités officielles, les ateliers. Vous voyez un peu. Et du coup, maintenant, quand vous partez dans les rédactions, c'est comme si vous assistez à des funérailles, excusez-moi du terme, parce que c'est tellement nonchalant. Les gens sont là, il n'y a rien qui bouge pratiquement. Tout est lié, rattaché à l'actualité du coup d'État, de l'extérieur. Quand on vous appelle, c'est ce qu'on vous demande. Et même là, il y a peu d'informations qui filtrent. Donc ça fait vraiment qu'on est obligé, en tout cas, de se réadapter.
Justement, donc, comment vous vous adaptez alors?
Alors, on essaie de s'adapter, comme on dit, au rythme de la situation, comme c'est venu, on gère ça comme ça. Parmi, par exemple, les mesures, j'ai entendu d'aucuns l'évoquer, si eux, ils ont prévu d'aller justement toucher le programme. Bon, le programme, je ne pense pas que ça soit peut-être une solution. Mais ici, c'est vrai, les médias, au lieu de s'entendre peut-être, parce qu'ils sont déjà dans le cadre d'une grande association, je rappelle, qui s'appelle RTIN. D'habitude, c'est dedans, ils font des réflexions pour entreprendre des mesures communes à adopter,
des décisions
uniformes, voilà, à tous les niveaux. Mais là, je constate qu'il y a, au niveau donc de la riposte à cette situation, une certaine discordance au niveau des mesures selon les médias.
Ils ont jugé utile de revoir, de se réorganiser. Ce n'est pas le cas de votre côté?
Oui, la réorganisation, la façon de réorganiser. Parce que quand on dit réorganiser, c'est vague. On se réorganise comment? Chacun a son petit plan, sa petite idée et sa manière de le faire. Si, par exemple, ailleurs, on vous a parlé du programme qu'il faut revoir, d'autre part, les gens envisagent même de réduire le personnel. Parce qu'on dit que, bon, voilà, déjà, c'était intervenu dans un contexte difficile, précaire pour les médias. Et aujourd'hui, voilà que rien ne change. Au contraire, l'horizon ne fait que s'assombrir. Et donc, vous voyez, c'est des problèmes. Il y en a aujourd'hui des responsables, des promoteurs qui caressent, en tout cas, cette idée-là de voir comment il faut parvenir à réduire les agents. Et je pense que ce n'est pas une solution parce qu'il faut voir derrière une telle décision ce qui pourrait suivre. Notamment, je parle de chômage et que ça pourrait engendrer. Merci. Et tout ce qui peut aller avec.
Merci bien. Nous allons revenir vers vous. Alors, M. Seydou Djibril, vous êtes journaliste depuis les événements du 26 juillet. Vous, de votre côté, quelle est l'analyse que vous faites du paysage médiatique au lendemain de ces événements?
Merci. Je suis journaliste, mais je suis un peu décalé par rapport à la pratique journalistique.
Effectivement, du terrain,
Mais je voudrais juste dire que ce n'est pas la première fois que le Niger connaît un événement de cette nature. Je crois que nous sommes à notre cinquième, disons, coup d'État militaire. Mais pour mémoire, nous avions encore la période post-coup d'État du 27 janvier 1996. Et puis ensuite celle du 9 avril 1999 et également le coup d'État du 18 février 2010, puis ces événements du 26 juillet. Donc je crois que ce n'est pas une situation aussi inédite en tant que telle pour les médias. Et je pense que normalement les médias doivent continuer à faire du journalisme, que du journalisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le changement intervenu à la tête de l'État ne devrait pas normalement induire des changements bouleversants pour la pratique du journalisme, parce que c'est aussi l'occasion pour les journalistes de démontrer qu'ils sont à l'affût de l'information, aller chercher l'information, traiter l'information, diffuser l'information. Mais en même temps, les journalistes sont également des acteurs dans, entre guillemets, cette crise, en ce sens qu'ils doivent être aussi au cœur de tout le, de toute la discussion qui se mène au niveau interne ou externe. Il a mentionné, Moody, tout à l'heure, cette pratique ne devrait pas juste se confiner, comme on le constate souvent, dans les groupes WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Vous savez que la différence entre le journaliste et peut-être quelqu'un qui est web activiste ou cyberactiviste, c'est que le journaliste, il jouit d'une, de la présomption d'avoir les habiletés pour chercher de l'information.
Et la donner à la publicité.
Et voilà. Et donc, je crois que cette situation ne devrait pas amener les journalistes à ne pas faire leur boulot. Et à ce que je constate depuis les événements du 26 juillet, je crois que la situation n'est pas aussi tendue qu'on le pense, en tout cas, de mon point de vue, pour les médias locaux. Tout dépend de comment on aborde le sujet. Mais il se trouve qu'il y a une certaine pratique de journalisme qui n'est pas du fait, de mon point de vue, des journalistes locaux, qui peut amener peut-être à donner cette impression qu'il y a un durcissement. Mais à mon avis, les traitements de l'information que je suis sur les médias locaux n'est pas de nature à créer une certaine psychose au sein, au niveau des médias.
Justement, dans un communiqué le dimanche 13 août à le bureau du conseil d'administration de la Maison de la Presse a tiré la sonnette d'alarme au sujet du climat difficile dans lequel exercent aussi bien les journalistes locaux qu'étrangers dans le pays. Alors, Bra Souleymane, vous êtes membre du conseil d'administration de la Maison de la Presse. Quelles sont les raisons de cette inquiétude pour la Maison de la Presse?
Merci beaucoup. Permettez-moi aussi d'encourager l'ensemble des professionnels qui, depuis l'avènement de ces coups d'État, quand même travaillent jour et nuit pour donner l'information quand même au public. Avant de répondre à votre question, effectivement, je voudrais un peu agir par rapport à la première question. Je pense que c'est vrai, ce coup d'État ne peut pas quand même induire un changement par rapport au traitement de l'information, mais l'impact que Moody est en train de parler, c'est par rapport à la situation économique de ces médias, puisque depuis les 26, pratiquement, il n'y a pas assez d'activité. Et vous savez, la plupart de ces médias, quand même, c'est des couvertures médiatiques, souvent des formations, des ateliers ou d'autres activités. C'est ça qui... Et c'est ces activités-là qui font en sorte que ces médias quand même arrivent un peu à fonctionner. Donc, de ce point de vue, si effectivement il n'y a aucune activité, vous conviendrez avec moi que quand même les personnels aussi seront concernés par cette situation. Mais au niveau des rédactions, on constate effectivement que les journalistes quand même font effectivement leur travail. Et ça, c'est à encourager. Par rapport au communiqué de la Maison de la Presse, je dois dire que c'est le troisième communiqué, puisqu'il y a eu un premier communiqué, il y a eu un second communiqué relatif à
celui du 13.
Alors, au lendemain, effectivement, de ces événements, d'abord lors des manifestations au niveau du siège du PENDES, il y a un caméraman d'un groupe de presse qui a été tabassé. Un véhicule d'un organe aussi, d'une radio qui a été aussi pris. Et par la suite, on a vu qu'il y a des journalistes nigériens, d'abord, qui ont été intimidés et menacés de l'exercice de leur travail, donc de leur métier. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a vu aussi certains activistes qui ont, à travers des écrits sur les réseaux sociaux, appelé à certains citoyens d'aller s'en prendre à une journaliste, même si elle est quand même la correspondante d'un média international. Pour nous, un journaliste est égal à un journaliste. Si quelqu'un est en faute ou ce n'est pas, de mon point de vue, à un citoyen d'appeler, d'aller régler les comptes
de ces journalistes. Mmh. Mais il y a des autorités compétentes qui sont là, puisque l'accréditation ou l'autorisation, c'est le ministère de la communication. Qui donne l'accréditation. Donc c'est à ces autorités compétentes de prendre des sanctions à l'encontre de ces journalistes, mais pas à un citoyen. Donc on a fait ces communiqués pour alerter, surtout les nouvelles autorités, pour qu'elles sachent effectivement ce qui se passe par rapport aux menaces et aux intimidations. Et je pense que c'est important parce qu'on sait que quand il y a ces genres d'événements, les journalistes, généralement, ne sont pas en totale sécurité. Voilà. Et il est toujours bon d'alerter, puisque quelqu'un...
Peut-être que c'est la raison pour laquelle certains médias ont jugé utile de revoir leur programme, de se réorganiser au sein de leurs médias.
Oui, en fait, moi, en fait, le fait de se réorganiser, c'est peut-être pour non seulement faire face à cette situation, mais pour les journalistes quand même. Vous voyez, au cours d'une manifestation avec toute une foule, on connaît en fait un peu aussi l'état d'esprit. Déjà, on peut voir maudit, on peut dire qu'il y a des enfants, peut-être quelqu'un qui est pour contre ou peut aussi s'en prendre à maudit ou à un journaliste. En fait, c'est ça qu'on voulait un peu éviter. La menace peut ne pas venir aussi des autorités. Comme en fait on a vu pour le cas de ces citoyens qui ont quand même à travers des écrits, essayé de menacer. Donc c'est en fait un peu ça. Il faut alerter, puisque il faut protéger les journalistes. Et je pense que c'est intéressant, nous, en tant que fêtières, d'alerter pour qu'on essaye de protéger les journalistes, parce que nous faisons du service public. C'est aussi important ce que nous sommes en train de faire.
C'est selon toi que quelques faits constatés par la maison de la presse qui ont motivé vraiment ce communiqué. Alors Moudi, de votre côté, qu'en est-il de l'exercice même de cette fonction depuis les événements du 26 juillet? Comment vous arrivez à couvrir les évolutions des événements sans inquiétude?
Oui, c'est vrai. Depuis le 26, moi personnellement qui vous parle, je reviens sur un fait. Le 26, j'ai précisément, quand on a appris d'abord la nouvelle du coup d'État, en tant que journaliste, parce qu'on était en pleine réunion de rédaction quand l'information était venue, donc j'ai jugé utile de me rendre sur le terrain pour voir ce qui s'est passé. Alors je suis allé et... C'est comme ça a été rapporté. Et sur le terrain, ça ne donnait pas l'impression qu'il y a quelque chose qui se produisait. Bon, et quand je voyais à l'aller la présidence là, les va et vient, j'ai dit au chauffeur de foncer et de dire qu'on partait au ministère de la Santé. On était parti au ministère et c'est de là qu'on a constaté les gens qui couraient dans tous les sens, qui cherchaient donc à vider les locaux, tout ça. Bon. En ce moment, j'ai dit à mon caméraman de déposer sa caméra, de faire usage de son téléphone. Je vais de mon côté aussi essayer. Et on va, parce qu'on ne peut pas parler, nous, à la télé, parler coup d'État sans montrer au moins des images, tout ça.
C'est vrai.
C'était au stade des rumeurs en ce moment-là. Ok ? J'ai dit de prendre, on va un peu filmer. Là, on était en plein filmage. Bon, enfin, c'est camouflé un peu pour le faire à travers le véhicule. Il y a des éléments qui nous ont aperçus et qui ont fait éruption. L'autre a même chargé son arme, alors qu'on était dans le véhicule de service en famille. Il avait chargé son arme, il est venu, il a récupéré nos téléphones, il a regardé. Bon, heureusement, il n'a pas pu retrouver quand même les images qu'on a tournées, et c'est en ce moment qu'ils nous ont ordonné de passer. Mais je vous assure, jusqu'à arriver à la radio, toute l'équipe, en tout cas qui était avec moi, les gens étaient traumatisés. Parce que les gars, de la façon dont il a chargé l'arme, étaient prêts à dégainer tout ça. Maintenant, le deuxième fait, c'était le même jour, parce que Bira a rappelé un peu les faits, mais n'a pas parlé. Moi, j'ai aussi une journaliste de ma rédaction qui a été agressée.
Ce sont des incidents verbalement qui n'ont pas été rapportés.
Absolument. Elle a été agressée, et verbalement, et même physiquement, elle a failli se faire tabasser. Mais elle a pu quand même faire usage de son aptitude physique, et puis bon, voilà, elle a pu s'échapper. Mais sinon, les menaces, elles sont réelles. Et là, malheureusement, comme l'a dit Bra, ce n'est pas seulement au niveau des autorités que ces menaces proviennent. Maintenant, ce n'est même plus ça, c'est dans l'autre sens. Parce que dans les manifestations, il ne se passe pas 48 heures sans qu'il y ait des mobilisations, des manifestations. C'est à l'intérieur de ces manifestations-là, souvent que les journalistes, en tout cas, rencontrent certains traitements qui ne sont pas de nature à être réservés à un journaliste en fonction.
C'est du jubilé, là, vous venez d'entendre donc le témoignage de Moody, illustrant ainsi l'ampleur des risques que les journalistes prennent pour effectuer leur travail en temps de crise. Vous, selon vous, comment le journaliste doit vraiment s'adapter pour éviter à s'exposer à tous ces risques pendant en temps de crise pour bien effectuer sa mission?
Vous savez, ces dernières années, suite aux différents foyers de crise qu'il y a notamment dans nos pays, il y a eu beaucoup de sessions de formation au profit des journalistes sur ce qu'on appelle la sécurité des journalistes. Donc, au cours de ces sessions, on développe un certain nombre d'outils pour les journalistes pour qu'ils développent une certaine sensibilité par rapport à la tension.
Voilà.
Et c'est comment se comporter, comment aussi traiter l'information en temps de crise. Je renvoie les journalistes à faire preuve davantage de prudence. Ce que Moody a raconté tout à l'heure, je trouve que c'est un fait tout à fait normal. Normal dans le sens
quand on
où
parle de,
il s'agit
contexte
quand
de
même,
crise, oui.
Il s'agissait quand même d'une prise de pouvoir par des militaires et il s'agit quand même d'une zone militaire. Et il y a une sorte de stress qui est là. Je pense que le réflexe militaire, en ce moment, il est tout à fait normal. Mais heureusement, les choses se sont bien passées. Peut-être aussi parce que, comme je l'ai dit, il y a eu ces dernières années beaucoup de sessions qui ont créé de l'interaction aussi entre les journalistes et les forces de défense et de sécurité pour que mutuellement, les uns et les autres comprennent la mission investie à la fois au FDS mais aussi aux journalistes. La question de la responsabilité sociale du journaliste est très importante aussi dans ce genre de situation parce que même le public, souvent, il apprécie, parce que vous savez, les citoyens lui-même, il se donne des outils de monitoring du travail des médias. Donc c'est pourquoi il est important que le journaliste reste dans son rôle de journaliste, c'est-à-dire de professionnel qui collecte, qui traite et qui diffuse de l'information. Mais si le journaliste lui-même rentre dans une sorte de mélange de genres qui consiste à mélanger ses opinions avec l'information ou si lui-même il est un activiste bien connu, il est évident que quand il y a des mouvements de foule comme ceux qu'on a ces derniers temps dans les rues de Niamey, que le journaliste soit pris à partie ou confondu par rapport à ses opinions ou par rapport à ses engagements. Oui, et c'est pourquoi il est important pour le journaliste aussi d'avoir une posture, j'allais dire, pas de neutralité en tant que telle, mais une posture nuancée et équidistante par rapport à ce qui se passe. Mais quand le journaliste lui-même a été quelqu'un qui porte des opinions allant dans un sens partisan, vous conviendrez avec moi que ça va être difficile pour le commun des citoyens de pouvoir le tolérer en tant que tel. Je finirai pour dire que la responsabilité sociale du journaliste est d'autant plus importante que nous devons savoir que l'allié principal du journaliste dans ce genre de situation, c'est la culture de la paix sociale. Tout ce que le journaliste doit faire doit concourir à renforcer la paix sociale. Pour ceux qu'ils ont évoqué tout à l'heure, je pense que c'est aussi le moment pour les journalistes de bâtir, de renforcer leur résilience parce qu'il n'y a pas que cette tension. Mais peut-être la particularité, c'est que cette fois-ci, il y a eu un coup d'État, certes militaire, mais qui a été assorti aussi d'un certain nombre de mesures extra-nationales, si je puis m'exprimer ainsi, notamment cette situation d'embargo qui impacte sur l'ensemble de la population et les médias ou les journalistes étant faisant partie de cette population, indubitablement, ils vont subir aussi cet impact. Mais je pense que du point de vue de la pratique journalistique, j'insiste encore pour dire que il y a, pour ce que je constate, opportunité de discuter, parce qu'il y a des nouvelles autorités qui sont en train de s'installer, mais je pense que c'est aux acteurs des médias de pouvoir prendre langue avec ces autorités pour justement poser ces questions. Quand il s'agit des manifestations aussi qui ont cours, je pense que ces manifestations ont un leadership. Il s'agit aussi de prendre langue avec les leaders de ces manifestations pour pacifier un peu le travail des journalistes.
Brah Souleymane, de votre côté, tous ces incidents relevés, ces situations d'agression relevées par certains médias, pensez-vous que cela explique une menace à la liberté de la presse au Niger?
Oui, et dès qu'on agresse, dès qu'on intimide un journaliste, effectivement, ça crée, oui, ce que Moudi vient de dire, s'il y a une psychose, ce qui veut dire que il ne se sent pas en sécurité pour bien faire son travail. Mais moi, je vois que effectivement, de toutes ces situations, que ce soit cette période et bien avant même avec la situation sécuritaire depuis pratiquement une décennie, les journalistes nigériens, je peux dire, bien merci, font effectivement un effort quand même pour faire correctement leur travail. Et ça, c'est en partie, effectivement, grâce à ces formations de renforcement des capacités, que ce soit sur la sécurité des journalistes, mais aussi sur les journalistes sensibles au conflit et bien d'autres aussi thématiques qu'on essaie, effectivement, de renforcer les capacités des journalistes. Mais ce qui est aussi important, de mon point de vue, c'est de faire aussi la part des choses. Entre, comme l'a dit Djibril, un journaliste, puisque les journalistes, quand même, c'est les journalistes, ils doivent être professionnels dans un travail. Maintenant, de l'autre côté, s'il est membre, par exemple, je prends le cas de Moudi, si Moudi finit son travail au niveau du groupe de presse en Fanny, et on les voit de l'autre côté, ça c'est quand même les citoyens Moudi qui a aussi un autre engagement qui est différent.
C'est une nouvelle robe.
Donc, qui est différent de son rôle des gens. Et moi, je pense que c'est peut-être ça qui fait en sorte que certains n'arrivent pas un peu à comprendre, à faire la part des choses. Quand on voit quelqu'un, on peut dire que toi, c'est un officier des Kalangou, lui, il est enfant, lui, il est de tel ou tel média. On confond souvent les journalistes à son média. Et pour moi, effectivement, c'est de faire les traitements comme ça se doit, comme il le faut, en respectant effectivement les principes du métier. Mais pour le moment, les gens doivent comprendre que les journalistes ne font pas ce travail pour eux-mêmes, ils le font pour les publics, c'est à leur profit et c'est à eux-mêmes de protéger les journalistes, surtout que nous ne sommes pas un théâtre de conflit, c'est principalement dans les grandes villes et surtout à Niamey, donc il n'y a aucune raison, de mon point de vue, de menacer ou d'intimider un journaliste. Si il y a des manquements, il y a des autorités compétentes qui soient là, qui font ce travail, c'est leur devoir ou c'est leur travail de faire ce travail et d'interpeller les journalistes.
Moudi Moussa, vous êtes d'avis vraiment que le journaliste doit rester dans sa posture de professionnel de la couverture des événements?
Oui, d'ailleurs c'est même en temps de crise que le journaliste doit montrer véritablement qui il est, qu'il est véritablement un bon journaliste et que il mérite ce titre surtout de journaliste. Parce que, vous savez, Nafissa, pour comprendre peut-être un peu le rôle du journaliste, ici on est au studio Kalangou, c'est un débat d'une situation qui est bien claire, la question donc de la corporation, le travail, comment ça doit se faire. Mais il faut regarder même avec l'opinion, quand une information vient d'un média, on dit « Ah, j'ai appris ça sur Kalangou, j'ai appris ça, donc c'est crédible ». Ok, mais une fois qu'on se met dans une posture à dire qu'à et l'autre là, parce qu'on a
déjà,
eu
on
aussi des cas.
La, sa position,
un temps, quand vous parlez d'entrave, parce que c'est aussi ça, le journaliste il a de grandes responsabilités. Quand RSF fait ses classements pour classer les pays en matière de respect de liberté de presse, il n'y a pas que les dérives ou les entraves qui viennent de comment on appelle ça, des tenants du pouvoir. Il y a beaucoup d'aspects qui entrent en jeu. Je parle sous le contrôle du doyen, grand frère Jibril. Okay? Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Un temps, je me rappelle, on a dit que non, les journalistes se faisaient même corrompre. Pour ça, donc, il fallait revoir le rang du Niger. Un temps, on disait que non, en fait, il y a des menaces qui venaient donc du politique, qui fait que, et souvent, il y a plusieurs facteurs. Donc, un temps, on disait que non, les journalistes manquent d'indépendance. Est-ce que vous voyez? Donc là, ça vient des journalistes eux-mêmes. Alors, donc, ça veut dire que le journaliste, il a une très grande responsabilité, un très grand rôle à jouer, notamment dans ce contexte-ci. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, chacun s'inquiète du sort des journalistes, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui prend énormément de risques.
Donc, la question vraiment du professionnalisme revient toujours à un autre constat, c'est que, on le sait, c'est dans ces moments précis que certaines personnes saisissent l'occasion pour diffuser de fausses informations, surtout sur les réseaux sociaux. C'est du Jibril, il est nécessaire ici pour le journaliste de vérifier d'abord les faits pour éviter vraiment les fake news, comme on appelle ça.
Bon, vous savez, la vérification de l'information, c'est dans l'ADN même du journalisme, voilà. Parce que normalement, un journaliste ne doit pas diffuser une information qui n'ait été vérifiée. Ça, c'est basique. Donc, je pense que même s'il y a une profusion de fausses nouvelles, d'infox, le journaliste doit garder une certaine sagacité pour savoir que toute information, de quelque source qu'elle provienne, doit être passé au crible de la vérification, parce qu'il y va, comme l'a dit tantôt Moody, de la crédibilité même du journaliste. Et quand c'est dans des situations de tension, cela devient encore plus pesant, d'autant plus que, vous savez, un mot mal placé ou une image mal diffusée, cela pourrait créer des situations regrettable. Donc la responsabilité du journaliste devient encore plus accrue, mais il est clair que aujourd'hui les gens ont une consommation importante des informations qui sont relayées à travers les réseaux sociaux. Vous savez qu'il y a des officines de fabrication de fausses informations. C'est une industrie, c'est un business. Mais les journalistes, lui, il doit se mettre au-dessus de tout cela. Mais quand je constate personnellement que souvent, même dans les groupes WhatsApp qui rassemblent les journalistes, il y en a parmi eux. Je ne fais pas de procès d'intention pour les journalistes. Mais c'est quand même assez regrettable de voir que ce soit des journalistes qui constituent des véhicules
les personnes censées donner
de ces
les
fausses
informations
dans leur propre groupe. Et souvent, on voit que ça provoque tellement de discussions sur
inutile,
du faux.
Oui.
Alors que maintenant même, ce qui se passe au Niger depuis le 26 juillet, normalement, les journalistes qui sont ici et peuvent actionner leur carnet d'adresse pour chercher des informations. Pourquoi ça attend-il que ce soit des informations qui leur proviennent de certains médias dits internationaux ou étrangers? Moi, je pense qu'il y a véritablement un problème de compréhension même pour certains journalistes du rôle qui est le leur. C'est-à-dire donc, un journaliste, ce n'est pas celui aussi qui est là sur les réseaux sociaux en train de s'intoxiquer souvent de certaines informations qui sont délibérément fausses et délibérément diffusées pour tromper les gens.
Oui.
Donc, il y a un surcroît de responsabilité et de professionnalisme qui est attendu de la part du journaliste parce que quoi qu'on dise, Et la voix du journaliste, en fait, ce qu'il dit ou ce qu'il montre est toujours attendu de l'opinion publique. Donc c'est très important que le journaliste lui-même comprenne cela. Il y a des images aussi qui peuvent circuler, qui peuvent subir des manipulations, mais je crois que le journaliste doit se garder d'être un diffuseur automatique de certaines informations au risque lui-même de se décrédibiliser le temps d'une crise qui est tout à fait passagère.
La propagation de ces fausses informations ou fake news est une réalité, d'où la nécessité aux journalistes d'éviter vraiment de tomber dans ce piège-là.
Je suis tout à fait d'accord avec Seydou pour corroborer effectivement ce qu'elle a dit. Aux premières heures de ce coup d'État, c'est un confrère qui a partagé l'information sur sa page. Mais, comme l'a dit Seydou, on a vu des confrères. Puisque la moindre des choses, quand même, c'est de l'appeler pour effectivement vérifier. Mais c'est des confrères qui essayent. Oui! Ils disent que non, il est en train de mentir, c'est faux, ce n'est pas vrai. Et le constat, c'est qu'avec ces automatismes dangereux, parce que les gens, c'est devenu un réflexe dans les différents groupes WhatsApp, c'est même les journalistes qui propagent, qui partagent toutes ces informations. Et ça, c'est très malheureux, puisque je pense que ces dernières années aussi, il y a ces effort, il a eu cet effort quand même de former les journalistes sur la vérification des faits.
Ils sont nombreux en tout cas qui ont bénéficié de cette formation.
Donc, je pense que il est attendu des journalistes effectivement de faire preuve du professionnalisme, surtout en ces temps, cette ère du numérique, des réseaux sociaux. C'est à nous de donner la vraie et la bonne information. C'est ce qui est attendu de nous.
Alors, Moudi, vu le climat dans lequel vous exercez, ou bien les journalistes exercent ces derniers temps, que diriez-vous aux autres journalistes pour qu'ils puissent vraiment garder l'éthique et la déontologie dans le traitement, la couverture même, dans leur métier en général, des journalistes?
Oui, c'est vraiment de faire preuve, comme on l'a dit, toujours de responsabilité et d'abnégation surtout. Parce que, et surtout être résilient, parce que vous savez, à chaque contexte, il faut aussi des nouvelles attitudes. Mais ces attitudes aussi ne doivent pas changer de ligne de conduite aux journalistes. Parce que vous savez, le journalisme, c'est l'un des rares métiers dans lequel, en tout cas, le professionnel de médias a plus de devoirs que de droits. Le journaliste, il a plus de devoirs que de droits. C'est-à-dire, et ça, c'est extrêmement important. Et donc, nous pensons que vraiment, c'est un contexte qui doit être là pour surtout nous rappeler qui nous sommes et nous dire aussi qu'on a des grandes responsabilités face à l'histoire. Parce que vous savez, pour parler comme le grand frère Jibril l'a dit, les médias, ils ont surtout une grande responsabilité dans ce contexte. Je vais prendre l'exemple, c'est pas chez nous, mais même ici, si en tout cas on se laisse faire, en tout cas on se laisse entraîner dans les fausses nouvelles, les rumeurs, etc., on peut arriver à ce stade. C'est pour parler de la radio Mille Collines, dont vous savez la responsabilité dans le cadre du génocide au Rwanda. Et que jusque-là, les conséquences sont là, personne ne veut même plus parler de cette page sombre. Voilà, et c'est un média, c'est parti d'un média. Et donc, c'est dans un contexte aussi glissant, aussi machin comme celui-là. Est-ce vous voyez,
on assiste même malheureusement souvent à certains qui veulent contrôler certains médias et imposer leur version. Oui,
voyez,
c'est ça.
Tout ça. Mais maintenant, dans l'immédiat, déjà, quand vous prenez les discours même en fait, qui est d'actualité, les gens veulent, en tout cas, qu'on ramène sur la scène, c'est des questions ethniques. Et nous, les médias, on ne doit pas prêter le flanc à ce combat. On ne doit pas, quelqu'un qui parle tient de ses problèmes, qu'il gère à son niveau, il n'a qu'à aller les faire là-bas. Mais nous, on ne doit pas leur servir de canaux pour véhiculer quand même des messages
comme,
irresponsables.
Comme le temps est contre nous, Moudi, quel est votre dernier mot?
Bon, mon dernier mot, c'est toujours ce rappel, parce que vraiment, comme je l'ai dit, au risque de me tromper, le contexte, il est là et il attend de nous que chacun soit responsable, vraiment responsable dans la plénitude du sens, n'est-ce pas? Ne pas se laisser en tout cas entraîné par le sensationnel surtout, parce que quand on parle des réseaux sociaux, à qui est sensationnel? C'est quelqu'un, il se met, peut-être il ne s'est même pas réveillé de son sommeil, à partir de son lit, il fabrique une opinion, il balance. Et bon, à travers des relais, ça va se retrouver dans plusieurs groupes, et c'est ça, d'aucuns vont prendre pour argent comptant jusqu'à des journalistes peut-être qui vont être amenés à le faire. Donc, c'est vraiment de redoubler de vigilance, redoubler de vigilance, rester, parce qu'aujourd'hui, le contexte, il est différent. Si Jibril a parlé des autres coups d'État qui sont intervenus en 96, en 2010, encore les réseaux sociaux n'étaient pas très développés. Mais aujourd'hui, c'est très sensible. Une information à la minute près, c'est parti très loin. À l'extérieur, c'est même de l'étranger, on va t'appeler pour te dire, quand j'ai vu ça, est-ce que... Comme ça, c'est après, tu vas te rendre compte que c'est dans les réseaux sociaux. Et donc, c'est vraiment le lieu d'appeler
à la vigilance. Merci bien, Seyd Jibril. Pour terminer, quelles sont vos recommandations aux journalistes en premier et même peut-être aux autorités pour que le travail du journaliste puisse continuer sans être perturbé dans ces temps?
Je voudrais juste dire que... au-delà de tout ce qui a été dit, le rapport n'est pas rompu. N'est pas rompu dans le sens où je crois que les médias en tant qu'organes de presse ou les médias en tant qu'organisations socio-professionnelles ont jusqu'à maintenant des interlocuteurs en face. Et je pense que c'est important d'établir ces ponts. S'il y a eu des problèmes au cours de ces trois dernières semaines, je pense qu'il faut trouver un terrain pour discuter de ces problèmes et envisager comment les éviter, d'une part. D'autre part, je pense que quand il y a des situations de tension pareilles, souvent la propagande prend le dessus. Et justement, les médias doivent continuer à faire du journalisme, à faire de l'information et à se garder de prêter le flanc à la propagande. Et cette propagande ne provient pas que seulement de certains groupes politiques ou de certaines organisations social, mais c'est une propagande aussi qui provient de certains médias. Donc les gens doivent faire attention à ne pas s'intoxiquer de propagande et savoir que nous sommes dans un contexte assez fragile avec tous les défis qu'on connaît déjà, et il est important que les journalistes fassent preuve d'un surcroît de professionnalisme et surtout qui s'accroche à leur responsabilité sociale qui consiste à faire en sorte que, de par leur travail, il ne faut pas qu'il y ait des facteurs qui exacerbent davantage une situation assez fragile.
Merci bien. Je termine avec vous, Monsieur Bras de la Maison de la Presse. Face donc à tous ces défis qui se posent aux journalistes en ces moments, quel est l'appel que vous lancez à leur endroit?
D'abord, aux confrères de continuer à faire leur travail en respectant les principes du métier. C'est de leur rappeler la propagande, la manipulation aussi, mais aussi certaines prises de position. Ça, c'est vraiment, puisque souvent, lui, il ne peut pas se mettre même à la place de l'autre acteur pour même voir que c'est comme si ça, ce n'est pas bien aussi pour un journaliste. Maintenant, à la population de comprendre effectivement notre mission, ce que les journalistes sont en train de faire comme travail. Maintenant, aux autorités, c'est de protéger partout les médias et de respecter aussi les engagements quand même pris par ou ratifiés par le Niger en ce qui concerne surtout vraiment la défense et la protection des journalistes. C'est très intéressant surtout dans ce contexte.
Protéger donc les médias, c'est avec ces propos que se referme à ce forum. Merci à tous de nous avoir suivis de par les interventions de nos invités. On comprend aisément que les journalistes exercent leur métier dans un contexte fragile ces derniers jours. Donc, il revient donc aux journalistes de faire preuve de professionnalisme, éviter toute intoxication, être vigilant face à la couverture, au traitement, donc à faire preuve de professionnalisme. Merci à nos invités, Bras Souleymane, membre du conseil d'administration de la Maison de la Presse, Moudi Moussa, journaliste est rédacteur en chef de la radio et télévision en Fanny, et Seydou Djibril, journaliste. La technique est assurée par Abdoulkader Tchambiano, la régie vidéo Lawali Issa. Je suis Nafis Adam Sirfa, la modération. À très bientôt sur le studio Kalangou pour une nouvelle thématique.